Père Philippe, théologie biblique, carrément, le 20-10-82.
Primo.
Alors ici, nous changeons de vitesse, on peut dire. Et nous inaugurons quelque chose que j'avais fait dans le temps à Fribourg, que je crois très important, moi qui m'intéresse beaucoup, j'espère que ça vous intéressera. Ça ne veut pas dire que la philosophie n'est pas intéressante. Vous verrez au contraire la manière dont il faut utiliser la philosophie dans une lecture de l'écriture. Alors c'est un titre un peu pompeux de mettre théologie biblique, mais il faut bien mettre un titre. Alors on pourrait mettre lecture de l'écriture, c'est plutôt comme ça que j'envisagerais. Il faut mettre théologie biblique aujourd'hui, ça recouvre des tas de choses tellement variées, tellement différentes. Quand j'écoute les perspic parler de la théologie biblique, il vous en parlera, alors ne dites pas que j'en ai parlé avant, n'est-ce pas? Mais c'est, je vois que c'est pas la même façon. La théologie biblique, le père Feuillet, on voit que c'est un... Le père Braun aussi, c'est très très difficile de voir qu'est-ce que c'est que la théologie biblique aujourd'hui. C'est pas commode. La théologie scientifique de Saint-Amand sait très bien ce que c'est. On sait très bien. Alors, c'est là où il y a un petit problème, et ça m'intéresserait avec vous au moins, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous faites quand même un peu de théologie, et je crois que dès qu'on est chrétien et qu'on fait de la philosophie, on fait de la théologie. Et qu'il suffit d'être chrétien et d'être intelligent pour qu'on soit théologien. Alors, oui, on est obligé de faire des traités, parce que ça se fait, mais au fond, autrement, si on est croyant, si on est intelligent, mais nécessairement, vous êtes théologien. Parce que vous faites la petite synthèse entre les deux. Et vous utilisez votre intelligence au service de la parole de Dieu. Et c'est ça être théologien. C'est lire avec intelligence la parole de Dieu. C'est pas autre chose. Alors, voyez, on va essayer ensemble de faire cela. De lire avec le plus d'intelligence possible. C'est pour ça que là, je dirais qu'on est tous intéressés. Je suis pas un spécialiste dans ce domaine-là, pas du tout. Mais je le fais exprès n'étant pas spécialiste. C'est-à-dire en étant philosophe, parce que là je peux dire qu'on est un peu spécialiste, quoi. Spécialiste de la philosophie grecque, spécialiste d'Aristote, spécialiste de la métaphysique, il n'y a plus personne. Donc alors, on est spécialiste, c'est facile. Immédiatement, on est original, vous savez, en disant les choses les plus anciennes. Et qu'on sait que le Saint-Père le veut et que l'Église le demande. Paul VI avait demandé qu'il y ait de la métaphysique. Alors qu'il ne savait pas très bien ce que c'était, tandis que le pape actuel le sait très bien. Mais Paul VI ne savait pas très bien, parce qu'il n'avait pas fait de métaphysique. Mais il le demandait, c'est le pape qui a le plus défendu la métaphysique, le mercredi. C'était une chose très étonnante. Poussé par le Saint-Esprit, il a demandé que la métaphysique soit. On n'a absolument pas répondu. On a pris les choses de Paul VI de telle manière qu'on n'a pas regardé les choses profondes. Alors, il faut comprendre que si on fait de la philosophie, c'est pour avoir une lecture en profondeur de l'écriture. Alors, vous allez me dire, ça c'est la théologie scientifique. Attention. Alors, une petite réflexion avant de commencer, Petite réflexion, parce que ça, je crois aussi, c'est important d'y réfléchir. Vous voyez, aujourd'hui, on a donné des grands thèmes de réflexion sur lesquels il faut revenir tout le temps. Parce que c'est vrai, il faut réfléchir tout le temps. Qu'est-ce que c'est que la philosophie? Qu'est-ce que c'est que la philosophie première? Qu'est-ce que c'est que la philosophie du vivant? Qu'est-ce que c'est que la philosophie éthique? Il faut s'y poser tout le temps. On entre après dedans. Mais la question première, c'est de savoir un peu ce que c'est. Alors, je voudrais revenir sur la théologie. Et voir, comme on a vu, il y a une division dans la philosophie, voir que la théologie, elle aussi implique des aspects très divers. Historiquement, on peut dire que la théologie, regardez dans le dictionnaire de théologie quand vous avez le temps de regarder, le mot théologie, l'article fait par le père Congar sur le mot théologie, comment la théologie s'est développée au cours des âges. Et on voit très bien que, historiquement, on montre que la théologie a eu des formes différentes, des modalités différentes, c'est évident. La théologie de Tertullien n'est pas la théologie des Cappadociens, la théologie des Cappadociens n'est pas celle d'Alexandrie, et ainsi de suite. Il y a des modalités différentes de la théologie. Allez. C'est paisible. C'est comme au Solchoir, ça me fait penser au Solchoir. Au Solchoir, il y avait comme ça un professeur qui faisait son cours. Je vois encore, c'était le père Gardeil, le petit Gardeil. Alors, il y avait le lac. Puis un beau moment, mais lui, il était resté assis. Ça faisait que moi, j'avais comme ça, j'avais la primauté debout, parce que j'étais debout. Tandis que, tout d'un coup, toute la classe était debout. Et regardait le lac, parce qu'on voyait au lac, il y avait un petit lac, un canard merveilleux avec des petits canards derrière. Alors, c'est évident, c'était bien plus intéressant que la philosophie. Alors tous ont regardé ça. Et alors, je vais garder sur... Tiens, qu'est-ce que vous regardez? Tout le monde était orienté vers autre chose. La théologie a pris donc des formes variées. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, saint Thomas, et c'est la grandeur de saint Thomas d'avoir donné une théologie scientifique qui a été de fait très mal gardée. Elle a été gardée ensuite par la scolastique décadente. Et très peu connaissent vraiment saint Thomas. Ça, il faut le dire. Vous voyez, quand je voyais, en parlant avec des théologiens orthodoxes à Paris, je leur demandais, mais qu'est-ce que vous connaissez de saint Thomas ? Au fond, les succès d'année de saint Thomas, c'est-à-dire Suarez. Donc, ce n'est pas saint Thomas. C'est la scolastique décadente. Alors, je comprends leur horreur de saint Thomas. Mais ce n'est pas saint Thomas, c'est la scolastique décadente. Alors, ils disent, mais vous regardez saint Jean. Ah, ça, c'est très bien, là, on est tout à fait d'accord. Et je dis, mais c'est ça, la théologie de saint Thomas. Ça nous permet de lire saint Jean. Toute la théologie scientifique, ça nous permet... toutes les autres parties de la théologie. Alors, à partir de la théologie scientifique, on voit, aujourd'hui, je prends les termes et puis on va essayer de les comprendre. Parce qu'on ne peut pas les comprendre sans regarder qu'est-ce que c'est que la théologie. La théologie, pour saint Thomas, il le dit, c'est la philosophie, toutes les disciplines philosophiques, au service de la foi. C'est la philosophie qui se met au service de la foi. La foi, c'est la parole de Dieu. Alors, on a la théologie, elle est sagesse. Aujourd'hui, on parle de théologie mystique. Certains n'ont pas du tout ça. C'est un fait, il y a une théologie mystique. Quand je regarde saint Jean de la Croix, vie flamme d'amour, mais ce n'est pas une théologie scientifique, c'est de la théologie. C'est une théologie mystique. Elle pourrait s'organiser autrement, mais c'est une théologie mystique. Je crois qu'il faut quand même comprendre qu'il existe une théologie mystique et que c'est manquer, je crois, d'expérience profonde de la foi pour dire que la théologie mystique n'existe pas. Qu'est-ce qu'il y a encore ? On parlera d'une théologie de l'Église. Et souvent, on met la théorie de l'Église, on ne sait pas très bien ce que c'est. J'ai vu ces choses-là très nettement. Parce qu'il y avait d'une part le cardinal Journet, d'autre part le père Congar, qui avaient des perspectives de la théologie de l'Église tout à fait différentes. Tout à fait différentes. Et puis un autre qui maintenant est monseigneur à Rome, qui était le père Amer. Alors quand on lui demandait comment faites-vous votre cours de théologie, c'était au seul choix, comment faites-vous votre cours de théologie de l'Église, eh bien je prends d'un côté le père Journet, d'autre part le père Congar, et je fais la synthèse. Mais on fait la synthèse. Alors, c'était deux perspectives qui ne sont absolument pas de synthèse. Le père Congar avait eu cette intuition, que je crois juste comme intuition, la théologie de l'Église, c'est la théologie du vivant, d'un vivant. Et donc, pour faire une théologie de l'Église, il faut servir de la biologie. Il avait oublié que c'était une philosophie du vivant. Et comme il n'était pas assez philosophe, il prenait de la biologie. Prenez la biologie, et c'est pour ça qu'il disait que la vie est périphérique. Au point de vue biologique, c'est très vrai, la vie se manifeste du point de vue périphérique. Mais la vie n'est pas périphérique. La vie, c'est l'âme qui est source de vie. Donc elle est au cœur. Mais si je prends la biologie, j'arriverai à dire ces choses-là. Et ça explique alors, jalon pour une théologie du laïcat. Et que le laïc, alors par le fait même, est beaucoup plus vivant que le prêtre. Puisque le prêtre, c'est l'institution, tandis que le laïc, c'est la vie. Alors on arrive à dire, ça c'est remarqué que ce serait très intéressant, un livre comme Théologie du laïcat serait très intéressant d'analyser ensemble, parce que ça, ce sont de ces livres qui sont très révélateurs d'une période, d'une pensée qui est le point de vue de la théologie de l'Église. Alors, beaucoup diront que le propre de notre siècle, c'est la théologie de l'Église. Alors, mettez Père Journet, Conga, deux extrêmes. Le Père Journet, lui, il voulait compléter ce que saint Thomas disait dans cette théologie scientifique, et saint Thomas ne faisait pas un traité de l'Église. Donc il manquait à la théologie scientifique un traité de l'Église. Il le faisait dans la perspective de la théologie scientifique. Tandis que le Père Conga le faisait dans la perspective de la théologie du vivant. Vous voyez, ça fait des perspectives tout à fait différentes. Qu'est-ce qu'il y a encore ? On en parlera théologie biblique. Voilà ordinairement ce dont on parle. On parle d'une théologie biblique, on parle d'une théologie de l'Église, on parle d'une théologie scientifique, on parlera encore d'une théologie positive. Vous voyez comme c'est barbare tous ces termes. Et ça fait partie des nomenclatures habituelles. Théologie positive, c'est-à-dire une théologie de l'histoire. Ou la théologie de l'histoire positive. Ça s'oppose à la théologie mystique, évidemment. Théologie mystique, théologie positive. Alors ce sera à base d'une méthode historique. Il est évident que la théologie de l'Église implique l'histoire. Oui, et on mettra dans les programmes de théologie l'histoire de l'Église. Nous aurons forcément des cours d'histoire de l'Église. Bon, les cours de l'histoire de l'Église, est-ce que c'est la théologie de l'Église ? Ah non, c'est pas la théologie de l'Église. Alors il y a la théologie de l'histoire de l'Église, il y a la théologie. Et aujourd'hui, on ajoutera encore des cours théologie pastorale. Ça s'ajoute, théologie pastorale. On mettra théologie pastorale. Quelle est votre théologie pastorale ? On dit, ah, tiens, oui, c'est intéressant de savoir ça, il faut y réfléchir. Théologie pastorale. C'est nouveau, ça. C'est nouveau. Alors, c'est toujours les derniers nés qui sont l'admiration de tout le monde. Mais c'est vrai, il faut pas l'oublier, c'est toujours comme ça. C'est les derniers nés, les derniers qui apparaissent. Alors, est-ce qu'on peut organiser ça d'une manière organique ? La théologie est une chose vivante. Si c'est une chose vivante, c'est organique. C'est pas fait de pièces et de morceaux. C'est pour ça que certains diront, et ça s'est dit et ça se redit encore, il n'y a plus de théologie. C'est parti dans tous les sens. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Parce que c'est parti dans tous les sens. Vous avez des théologies pastorales, théologie biblique, théologie d'église, théologie scientifique, Saint-Thomas, on n'en parle pas. Théologie positive, histoire, théologie mystique, on n'en parle pas non plus. Ça, c'est les deux enfants dont on ne parle pas. Allez regarder, je n'ai pas mal de noms, allez regarder dans les universités catholiques, au fond, là où il y a des facultés de théologie, est-ce qu'il y a un cours de théologie mystique ? Non. Est-ce qu'il y a un cours de théologie scientifique ? Ah, on retrouve les autres choses. Alors, on mettra aujourd'hui l'herméneutique. Ah, mais là, ça, c'est le dernier. Hein. L'herméneutique. L'herméneutique, ça va jouer un rôle très, très important, puisqu'au fond, ça va remplacer la théologie scientifique. L'herméneutique va remplacer la théologie scientifique. Alors, c'est quand même intéressant, il faut voir cela, voir ce phénomène d'éclatement. Alors, en face de ce phénomène d'éclatement, donc mettez-vous là. Il faut que toutes les chaires de philosophie, de théologie soient doublées par une chaire d'herméneutique. Et en réalité, la théologie herméneutique remplace la théologie scientifique. Il faut que la théologie, on dira aussi, oui, je voulais encore, vous voyez, on dira, dans la théologie, on dira théologie dogmatique et théologie morale. Alors, on ne sait plus très bien qu'est-ce que ça recouvre tout ça. Vous voyez ? Il faut voir ce. On est devant, vous voyez, c'est une espèce de pléthore dans tous les sens de la théologie. Je pars toujours de cette... C'est un petit peu comme je vous disais ce matin, on ne sait plus ce que c'est que philosophie. On est ami de la sagesse. Non, on ne sait plus. On ne sait plus très bien ce que c'est l'ami de la sagesse. Bon, aujourd'hui, la théologie, la philosophie au service de la foi, au service de la parole de Dieu. Or, je vais essayer. Alors ici, réflexion, hein. Réflexion critique. Je dis que la théologie, elle est au service de la foi qui peut adhérer à la parole de Dieu. C'est la foi qui remplace l'expérience. Hein. La foi, pour la théologie, remplace l'expérience. Je ne parle pas d'une théologie de l'expérience. Ça, ce serait quelque chose de particulier. Ce n'est pas une théologie de l'expérience. C'est une théologie de la foi. La foi adhère à la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu, alors ce serait très intéressant à faire, j'ai fait toute l'enquête personnellement, mais je ne l'ai plus, ça aurait été intéressant ensemble de voir ça. C'est facile à faire, du reste. Pour ceux qui lisent toute l'écriture depuis le début jusqu'à la fin, avoir un fichier très bien fait sur le mystère de la parole de Dieu. Chaque fois que dans l'écriture, on parle de la parole de Dieu, faites vous-même ça, c'est très important pour votre théologie. La parole de Dieu est un marteau, c'est dit. Marteau, pilon, ça c'est pas dit. Mais la parole de Dieu est vivante, la parole de Dieu est efficace, la parole de Dieu, et ainsi de suite. Toutes les fois où, à l'intérieur même de l'écriture, il y a une qualification de la parole de Dieu. Et ça c'est très important, parce que, de fait, la théologie regarde le mystère de la parole de Dieu dans sa signification plénière. Or, je crois qu'on peut facilement découvrir. La parole de Dieu implique un enseignement. Dieu, quand il me parle, m'enseigne. C'est dit dans Saint Jean, du reste. Hein. Vous serez tous, c'est dit dans Saint Jean, c'est Jésus qui reprend la parole du psaume. Vous serez tous enseignés dans les derniers temps, directement par le Père. C'est un enseignement de Dieu. Quand vous lisez la Bible, vous vous mettez à l'école du Saint-Esprit, à l'école du Père, qui vous parle par son Fils. Donc c'est un enseignement, ça. Si c'est un enseignement, la parole de Dieu a donc une intelligibilité profonde. Ça a un sens, la parole de Dieu. Et cet enseignement signifie quelque chose. Il y a un enseignement. Et il y a quelque chose d'important à découvrir dans cet enseignement. La parole de Dieu n'est pas seulement un enseignement. La parole de Dieu va impliquer une histoire. Ça, on aime beaucoup le dire aujourd'hui. Il faut se souvenir en rouge trois fois pour démontrer qu'on est tout à fait moderne. La parole de Dieu implique une histoire. Elle implique une histoire. Il y a un développement de la parole de Dieu. Dieu aurait pu très bien donner un enseignement sans histoire. Un enseignement philosophique se donne sans histoire. Vous voyez ? Entre parenthèses, vous comprenez bien. L'histoire ne fait pas partie de l'enseignement. Je peux m'enseigner par l'histoire, mais l'enseignement... des mathématiques, l'enseignement, c'est en dehors, c'est un enseignement qu'on donne intelligible. Tandis que ce qui est très particulier dans la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu implique une histoire qu'on appelle l'histoire sainte. Il y a une histoire. Ça, on ne peut pas dire. À travers un peuple, Dieu se révèle. À travers le peuple d'Israël. Et avant le peuple d'Israël, Dieu se révèle à travers des grandes traditions religieuses multiples. Les 11 premiers chapitres de la Genèse, c'est avant l'histoire. C'est préhistorique. Donc il y a du préhistorique. Hein. Il y a de l'histoire, et puis il y a du préhistorique, et puis il y a quelque chose qui est du futurisme, hein, n'est-ce pas ? La futurologie. N'est-ce pas ? C'est du futurisme, puisque c'est l'Apocalypse. Qu'est-ce qui va arriver demain ? Bientôt. Alors vous voyez le dépassement, mais il y a des deux côtés, hein. C'est très intéressant de voir ça, tout le reste. C'est une histoire unique, depuis le début jusqu'à la fin. Ça prend toute l'humanité à travers cet enseignement. La parole de Dieu, elle est gardée dans le cœur des saints, tradition. Ah, je ne peux pas nier. La tradition fait partie du mystère de la parole de Dieu. Je n'ai pas le droit d'évacuer. La parole de Dieu est gardée dans le cœur des saints. La parole de Dieu est une rosée qui demande de remonter jusqu'à Dieu et elle est gardée dans le cœur des saints. Et donc la tradition fait partie de ce mystère de la parole de Dieu. La parole de Dieu est toujours enveloppée dans un halo affectif, la tradition. C'est pour ça qu'il y a la canonisation des saints. C'est pour montrer que certains ont bien compris la vérité qu'ils ont gardée. Oui, il faut toujours se rappeler ça. Je crois que c'est très important. Je pense toujours à ça, surtout dans les moments de crise. Bon. Et dans les pays de montagne, au début de l'hiver, avant l'hiver, on met des poteaux indicateurs pour bien montrer là où le chasse-neige doit passer. Parce que quand il y a la neige, on ne voit plus rien du tout. Alors les poteaux indicateurs sont les saints. Ils sont là comme poteaux indicateurs pour montrer là où on doit passer. Là, on est sûr d'être dans le sens de la tradition. Tradition. La parole de Dieu, elle est portée par le Christ. Le Christ est la parole vivante. Il est la parole. Le Christ est plus que l'enseignement. Le Christ est plus que l'histoire sainte. Le Christ est plus que la tradition. Il est l'au-delà. Alors, le Christ, il est quoi? Il est pour nous modèle. Exemplaire. Et le Christ, il est en même temps aussi. Il est celui qui non seulement est le modèle, mais il est celui qui est le don. Le Christ est don. C'est la parole m'est donnée. C'est pour ça que je peux dire que le Christ est le pain, si vous voulez. Alors là, vous auriez tout à fait le parallèle entre la parole et le pain. Je suis le pain de vie. Il est donné. Il est le don. Il est le modèle. Je crois que là, je résume toutes les dimensions de la parole de Dieu. Mais je fais ça exactement comme à propos d'une expérience. Je prends là, de façon critique, quelles sont les dimensions de la parole de Dieu. Mais je vois quelles sont ces dimensions-là. Alors, si je suis intelligent par rapport à la parole de Dieu, je vais donc développer ces différentes dimensions de la parole de Dieu. Le développement de la parole de Dieu du côté de l'enseignement. Alors là, on le sait bien. Théologie scientifique. La théologie scientifique de saint Thomas développe le plus possible l'enseignement de la parole de Dieu. Le caractère d'intelligibilité de la parole de Dieu. Le point de vue de l'histoire sainte. Alors je dirais théologie biblique. C'est ça la théologie biblique. C'est au fond me montrer comment Dieu a voulu un certain devenir. La révélation implique un devenir, elle implique une évolution, si vous voulez, un développement. Elle n'est pas toujours la même. Il y a tout un développement, et ça c'est important pour moi. C'est quelque chose d'autre comme dimension que le point de vue proprement d'intelligibilité. C'est le développement de la parole de Dieu. Alors je crois que c'est ça la théologie biblique. C'est de développer la dimension devenir. La tradition, théologie de l'Église. C'est l'Église, la tradition. C'est l'Église qui est porteuse de la parole de Dieu. C'est l'Église qui, par le magistère, précise exactement comment je dois concevoir la parole de Dieu. C'est l'Église qui me donne cette parole de Dieu. Alors, la dernière partie, théologie mystique. La théologie mystique regarde le Christ comme modèle et comme don. Regarde le Christ comme pain. Vous voyez que si j'étudie, alors là ça se structure, je commence à comprendre pourquoi il y a ces diverses parties. Parce que de fait, la parole de Dieu implique une, deux, trois, quatre dimensions. Si vous en voyez d'autres, vous me le direz. Ça c'est très intéressant, c'est une très bonne réflexion. Réflexion sur le mystère de la parole de Dieu dans toutes ses dimensions par rapport aux croyants. Il me semble bien que là, j'ai les quatre grandes dimensions de la parole de Dieu. Donc, la théologie doit donc avoir quatre grandes dimensions. Quatre dimensions, vous voyez. Alors, je pourrais dire que peut-être la théologie mystique va se développer de deux manières, par le point de vue du don, par le point de vue du modèle. Ça pourrait se dire. Mais comme le Christ est modèle et don en même temps, Je vois le développement de l'amour, ici, ce qu'il est donc. Théologie mystique, c'est la théologie de l'amour. La parole de Dieu est une parole qui spire l'amour, comme dira saint Thomas. C'est une parole qui conduit à l'amour. Tant que je n'ai pas découvert la parole de Dieu comme source d'amour pour mon cœur, je n'ai pas découvert pleinement et totalement ce que c'était que la parole de Dieu. La parole de Dieu éclate dans mon cœur pour être source d'amour, source d'un renouveau d'amour. Oui, ça c'est propre, donc c'est la cause. L'intelligibilité, le devenir et la durée. Oui, le devenir, ici. C'est assez curieux de l'associer ça. Et puis le point de vue de la durée. C'est vrai, c'est le point de vue du vivant, la tradition. C'est le point de vue du vivant. Alors vous avez donc, hein, si je reconnais bien, vous avez donc la théologie scientifique qui se sert avant tout de la philosophie première. La théologie biblique qui se sert avant tout de la philosophie de la nature. Le devenir. Philosophie du vivant. Ah, vous voyez l'intérêt de la philosophie du vivant. C'est pouvoir avoir une théologie de l'Église. Vous ne pouvez pas faire une vraie théologie de l'Église sans avoir une philosophie du vivant. Or, la philosophie du vivant a disparu, et c'est pour ça que les théologiens de l'Église ne savent plus très bien. Parce que le point de vue de la philosophie du vivant a disparu. Et le point de vue de la théologie mystique, alors, on va tout de suite comprendre, c'est le point de vue de la philosophie éthique, c'est le point de vue de la philosophie de l'agir, du facere. Parce que l'amour, c'est justement ce qui va prendre possession de mon cœur. Dieu est don, Jésus est le don, et l'Esprit Saint me façonne. Vous voyez ? Et donc, il y a tout point de vue du facere. Je ne peux pas comprendre vraiment les dons du Saint-Esprit sans avoir une théologie de l'activité artistique. Parce que le Saint-Esprit, c'est le grand artiste. Il travaille dans l'amour, le Saint-Esprit. C'est pas sur la matière, mais il travaille à l'intérieur de l'amour. C'est le grand artiste dans l'ordre de l'amour. Alors, c'est le grand artiste dans l'ordre de l'amour. J'ai donc l'aspect de la philosophie du facere et la philosophie éthique. Alors, toutes les parties de la philosophie sont présentes, sauf la philosophie politique. Alors, la philosophie politique, vous allez dire, ah, je la retrouve ici. L'Église. L'Église va impliquer tout un aspect de durée, mais de durée ordonnée par l'Esprit Saint, et donc on peut dire une politique divine à l'intérieur. Ce n'est pas du côté de la théologie mystique. La théologie mystique, non, ça n'a pas ce développement-là. Mais vraiment, pour comprendre parfaitement le point de vue de l'économie divine, la manière dont Dieu conduit l'Église. Puisque Dieu conduit l'humanité par l'Église. Il conduit l'Église par le Christ, il conduit l'humanité par l'Église. Et donc c'est cette dimension dans la théologie de l'Église qu'il faut voir, le point de vue de l'économie divine. Alors vous avez donc toutes les parties de la philosophie qui sont au service de la parole de Dieu. Ce que saint Thomas avait dit quand il nous disait que toutes les disciplines philosophiques sont au service de la foi. Vous voyez, ça m'intéresse beaucoup, ça, de fait, parce que ça me dit qu'il y a là quelque chose qui est important pour nous. Si nous comprenons profondément la structure de la pensée humaine au service de la foi, nous découvrons une diversité philosophique, et cette diversité philosophique va se répercuter nécessairement au niveau théologique. Parce que la foi ne modifie pas mon conditionnement intellectuel. La foi ne modifie pas mon conditionnement intellectuel. Mon conditionnement intellectuel demeure le même, que je sois croyant ou pas croyant. Je ne vais pas avoir une sixième vitesse. Non, 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 non. Dieu n'a pas voulu inventer un langage particulier pour le croyant. Si j'avais été à la place de Dieu, c'est ce que j'aurais fait. Parce qu'alors au baptême, vous auriez reçu par infusion une nouvelle langue. Et nous aurions eu la langue des croyants. On aurait tout de suite reconnu s'il était croyant. Parce qu'on en aurait eu des croyants qui bégayaient. On a dit, il a oublié sa langue. Il y a très longtemps qu'il n'a pas pratiqué. Ça se voit tout de suite. Hein? Il bégayait complètement. Ça ne va plus du tout. Puis alors, on aurait eu au contraire des bouches d'or, hein? Des chrysostomes merveilleux. Ah, celui-là, quel croyant extraordinaire, merveilleux. Dieu n'a pas voulu ça. Il a voulu se prendre le langage des hommes. Dieu n'a pas changé la grammaire, Dieu n'a pas changé le langage, Dieu n'a pas changé la philosophie, Dieu n'a pas changé la structure de l'intelligence de l'homme. Il a changé qu'une seule chose, le cœur de l'homme. Mon fils, donne-moi ton cœur. C'est la chose qu'il a changée. C'est ça l'étincelle de l'Esprit-Saint en nous. Il a changé notre cœur, mais il n'a pas changé notre intelligence. Donc, si vraiment la philosophie implique cette structure que nous donne Aristote, si vraiment la philosophie implique cette structure, mon contact avec le réel n'est pas unique puisque je n'ai pas l'intuition de l'être. Donc mon contact avec le réel implique le contact avec le devenir, le contact avec le vivant, le contact avec mon action morale, avec mon action de facere, avec ma coopération, et puis le contact avec l'être. Donc le réel commande... Si vraiment la philosophie implique cette structure que nous donne Aristote, si vraiment la philosophie implique cette structure, mon contact avec le réel n'est pas unique puisque je n'ai pas l'intuition de l'être. Donc mon contact avec le réel implique le contact avec le devenir, le contact avec le vivant, le contact avec mon action morale, avec mon action de facere, avec ma coopération, et puis le contact avec l'être. Donc le réel commande ces six structures de la philosophie. Le réel commande les six structures de la philosophie. Si le réel commande ces six structures de ma philosophie, je dois retrouver au niveau de la théologie ces six structures. Pas nécessairement de la même, hein, c'est pas univoque, c'est analogique. Et c'est pour ça que je n'en retrouve que quatre. Parce qu'en réalité, l'Église, c'est le vivant, mais c'est un vivant qui demande de progresser et d'être conduit par l'intérieur de l'Esprit-Saint, politique de l'Église. Et l'éthique, la théologie mystique, assume la philosophie éthique et la philosophie du facere. Parce que c'est l'action de l'Esprit-Saint au plus intime de mon âme, c'est l'Esprit-Saint en tant qu'artiste, et c'est l'Esprit-Saint en tant qu'artiste qui transforme mon cœur, qui transforme ma capacité d'aimer. J'ai donc ces quatre dimensions. Et alors ces quatre dimensions, vous voyez, alors maintenant nous allons faire la critique de ce qui nous est donné maintenant là. C'est une fois qu'on a découvert. Une fois qu'on a découvert ça. Vous comprenez que cette réflexion, j'ai dû la faire le jour où à Fribourg on m'a demandé d'enseigner la théologie mystique. On a dû demander à un philosophe d'enseigner la théologie mystique parce que les théologiens ne pouvait pas le faire. Alors on m'a demandé de le faire. Bon, le jour où on m'a demandé d'enseigner la théologie mystique à Fribourg, ça n'a pas duré très longtemps, parce que vite les théologiens ont repris leurs droits, mais au fond, ça a duré quand même un certain temps. Ça a eu au moins pour moi l'immense avantage, c'est que quand on doit enseigner quelque chose, on se dit quel est l'objet formel de la théologie mystique. J'ai écrit à ce moment-là à Rome, au père Philippe, qui n'était pas encore évêque ni cardinal, et qui avait enseigné de longues années, la théologie mystique à Rome, puisqu'il a eu comme élève notre pape actuel. Alors, il a enseigné de longues années la théologie mystique. Je lui écris en lui disant « J'aimerais bien savoir quel est votre objet formel. » Je lui écrivais ça un peu méchamment, parce que je savais très bien qu'il n'avait pas réfléchi sur l'objet formel de la théologie mystique. Alors il m'a dit, que voulez-vous ? Je ne sais pas très bien, je vois l'histoire de la spiritualité, je vois un traité de saint Thomas qui éclaire un autre traité de saint Thomas, alors ça fait quelque chose de nouveau, bon, très bien. Donc je ne vois pas. Je ne sais pas quel est l'objet formel de la théologie mystique. Quand vous regardez dans le père Garrigou-Lagrange, j'ai fait la petite enquête, c'est intéressant ça. Quand vous regardez dans le père Garrigou-Lagrange, le père Garrigou-Lagrange dit, la théologie mystique, c'est des applications de la théologie scientifique aux pratiques. Vous comprenez que c'est une bouillabaisse, hein, avec tout le respect que je dois pour le père Garrigou, parce que les applications des conclusions de théologie scientifique, c'est ce qu'il y a de moins pratique. C'est la foi qui est pratique, mais ce n'est pas les conclusions de la théologie scientifique. Dire la grâce est un habitus antitatif, hein, comme c'est lumineux point de vue pratique. Ça n'a rien du tout point de vue pratique. C'est pas les conclusions de la théologie scientifique qui sont importantes. C'est la foi. Donc, la théologie mystique, c'est une reprise de la foi pour développer l'aspect pratique de la foi, l'aspect amour, oui, l'aspect affectif de la foi. Donc, la théologie mystique. Et cet aspect-là nous est donné à travers le Christ. Alors, je me suis trouvé donc devant toute une série de gens qui enseignaient la théologie mystique et qui n'avaient pas réfléchi sur l'objet formel de la théologie mystique. Alors, comment voulez-vous enseigner si on ne connaît pas l'objet formel? Moi, je suis incapable. On peut décrire, on peut raconter des histoires, mais on ne peut pas enseigner, il n'y a pas d'ordre. Alors, on ne saisit pas le point de vue de la sagesse. Il faut savoir l'objet formel de la théologie mystique. Alors, c'est à partir de là, je me suis mis à réfléchir sur la structure de la philosophie et comprendre la structure de la théologie. Alors, je me souviens, j'avais écrit un article à ce moment-là, je l'avais envoyé au bon père Dondaine, qui était au seul choix. Et alors, le père Dondaine m'a dit, en renvoyant l'article, « Oui, c'est très intéressant, mais je crois que personne ne le comprendra. » Très bien, j'ai remis dans un tiroir, c'est tout, parce que c'est pas la peine, on écrit pour que les gens comprennent, mais ils comprennent pas comment la structure de l'intelligence n'est pas fausse, n'est pas touchée par la foi. C'est pourtant saint Thomas le dit textuellement. Saint Thomas nous dit que la foi ne nous donne aucun nouveau concept. Donc, elle ne donne pas une structure nouvelle d'intelligence. C'est impossible. La foi ne nous donne pas une nouvelle logique, une nouvelle manière d'analyser, ne nous donne pas une nouvelle méthode. Alors, il faut donc comprendre comment il faut appliquer la structure de la philosophie au service de la parole de Dieu. Il faut y réfléchir là-dessus. C'est très important. Moi, ça m'a beaucoup éclairé. Donc, je crois que c'est éclairant. Parce que je crois que c'est... Parce qu'autrement, quand vous êtes en face de ça, vous ne comprenez rien du tout. Alors, vous voyez donc ici, très bien, ça colle. Théologie scientifique. C'est bien évident, c'est très important. Je ne pourrais rien dire s'il n'y avait pas la théologie scientifique de saint Thomas. Théologie morale dogmatique. Ça, c'est des distinctions du XVIIe siècle, dont le vernis est très puissant, et c'est impossible à enlever. Mais on peut peut-être dire, au fond, ça n'a pas besoin du tout de faire théologie dogmatique et scientifique. C'est la théologie scientifique de saint Thomas. Saint Thomas n'a jamais fait dogmatique et scientifique. Et morale, les deux sont impliqués dedans. Pourquoi? Parce que la foi est à la fois. La foi, elle est spéculative et pratique en même temps. Donc, c'est une fausse distinction. C'est une distinction de professeur. Oui, de fichier. Et c'est une fausse distinction, ça fausse tout. Ça fausse tout, ça. Alors, donc, il faut le biffer. Il faut avoir le courage de le biffer. En disant, théologie positive, mais non, théologie positive. La foi n'est pas positive. La foi nous fait entrer dans une dimension d'histoire, très bien. Une dimension de durée, très bien, mais ce n'est pas positif, c'est la foi n'est pas positive, donc on ne peut pas dire une théologie positive, ça ne va pas. Théologie d'Église, oui, il y a une théologie d'Église, ça c'est vrai. Et c'est très vrai que cette théologie de l'Église, elle s'est développée depuis le début de ce siècle. Théologie biblique, alors dans le sens qu'on disait tout à l'heure, théologie du développement de la parole de Dieu. Moi j'aimerais mieux dire ça. Parce que biblique, ça ne va pas, tout est biblique. Tout est biblique, puisque tout est du côté de la parole de Dieu. Alors, dire une théologie scientifique qui n'est pas biblique, je ne comprends pas du tout. La théologie de saint Thomas, elle est biblique, puisqu'elle s'appuie toujours sur la parole de Dieu. Donc, il ne faut pas accaparer la Bible aux exégètes. La Bible est donnée aux croyants, et elle est donnée aux théologiens. Je ne peux pas faire de théologie sans la Bible. Donc, elle est donnée aux théologiens et aux croyants. Donc, on ne peut pas dire théologie biblique, il faut dire théologie du développement de la parole de Dieu. Alors, il vaut mieux dire ça, mais il faut comprendre. Théologie pastorale, alors là, on va arriver à quelque chose de plus difficile, n'est-ce pas? Théologie pastorale, je ne l'ai pas montré ici. Alors, la théologie pastorale, c'est quoi? C'est tout simplement la transmission de la théologie au peuple de Dieu. Alors, vous comprenez que si je reste au niveau scientifique, méthode scientifique. Alors, j'ai besoin d'autre chose pour transmettre, parce que je ne transmets pas au peuple de Dieu la science. Mais si je m'élève au niveau sagesse, sagesse, C'est vraiment la théologie mystique hein, qui est le plus proche de la sagesse. C'est ce qu'il y a d'ultime. Ça touche au point de vue de l'amour, ça touche au point de vue de la fin. Si j'ai une théologie mystique est immédiatement transmissible au peuple de Dieu. Parce qu'on ne peut sanctifier les gens et les convertir qu'en réanimant leur cœur. Il n'y a pas moyen autrement. C'est comme ça que Dieu agit, c'est comme ça que Jésus agit. Donc il suffit de voir la manière dont Jésus agit. Et la théologie pastorale, c'est la manière dont Jésus agit. La manière dont Jésus parle à un théologien. La manière dont Jésus parle à une samaritaine. La manière dont Jésus parle à un officier royal. La manière dont Jésus parle aux enfants. C'est ça la pastorale. La théologie, quand elle est sagesse, est immédiatement transmissible. La sagesse se communique sans envie. Plus besoin de méthode, au sens fort. Parce qu'elle est immédiatement transmissible. Mais pour ça, il faut qu'elle soit pleinement amoureuse. Ça, c'est immédiatement. Et ça, c'est propre de la sagesse mystique. Une sagesse mystique se transmet immédiatement. Vous savez, il faut prendre l'exemple très simple du grand vivant et du petit vivant. Le petit vivant, il a peur des gelées tardives. Alors il faut mettre une cloche dessus. Le grand vivant, c'est le chêne, il crée un climat autour de lui. Un vivant ne se pose jamais la question de l'adaptation. Jamais. Parce qu'il est souple, dans la mesure où il est un grand vivant. S'il est un petit vivant, alors oui. Parce qu'il va se demander comment il va grimper sur le grand arbre. Alors s'il est un petit lapin, on dit... aussi, s'il est un petit moustique, c'est très bien. Alors là, il y a une manière différente de monter. Mais s'il est un grand vivant, non, il attire les autres à voir, à lui. Est-ce que ce n'est pas ça le propre de la contemplation? Toute vie apostolique doit être contemplative. Autrement, elle ne peut pas se transmettre. Elle est du côté de l'efficacité, alors elle cherche des outils et des méthodes. Tandis que si elle est contemplative, ah, c'est autre chose, elle attire. C'est le propre de la contemplation, c'est le propre de l'amour. J'attirerai tout à moi. Jésus ne dit pas autre chose, j'attirerai tout à moi. Et c'est le Père qui nous attire, parce qu'il est source d'amour. Alors il nous attire. Vous voyez, c'est la différence, au point de vue philosophique, entre la transmission de la causalité efficiente et la transmission de la causalité finale. La causalité efficiente, elle court toujours après. Tandis que la causalité finale, elle attire. Alors quand vous courez après, causalité efficiente, il faut vous adapter pour le plus court chemin. Tandis qu'au contraire, quand vous êtes causalité finale, vous attirez. Alors vous suscitez un intérêt, c'est bien évident. Il faut susciter un intérêt, il faut créer des milieux. C'est très vrai. Il faut créer des milieux. Paul VI l'avait dit. Paul VI avait dit, dans ce monde qui se refroidit, il faut créer des milieux, des oasis, où on peut parler. On peut communiquer la foi. Donc c'est créer des oasis. Des oasis de prière, des oasis... Alors là, à ce moment-là, les gens écoutent et viennent. Parce qu'ils sont attirés par ça, par des points d'eau. Mais si vous continuez de prendre la causalité efficiente, hein, vous courez indéfiniment. Et comme le monde change tout le temps, vos méthodes doivent changer tous les 8 jours. Et ça peut être autrement, tous les 3 ans, si vous voulez. Parce que la transformation du monde est comme ça. Alors, vous êtes en dépendance du monde. Alors que si vous creusez profondément... Vous attirez, vous créez des milieux de vie qui sont des milieux de vraie vie, c'est-à-dire de vie chrétienne, de vie de prière, de vie d'amour. Alors à ce moment-là, ça attire. Vous voyez, c'est très important de comprendre ça. Donc, théologie pastorale, je n'ose pas l'effacer, n'est-ce pas, mais je la laisse comme ça. Herméneutique, alors je dis herméneutique, c'est très particulier l'herméneutique. L'herméneutique, elle existe, vous savez bien, c'est une chose heideggerienne, l'herméneutique. On n'en parlait pas beaucoup avant. L'herméneutique, elle existe au niveau du langage symbolique. C'est le langage symbolique qui a besoin d'une herméneutique. Je n'ai jamais vu un mathématicien qui disait qu'il avait besoin d'une herméneutique. C'est curieux. Non, pas du tout. L'herméneutique est née chez Heidegger pour expliquer un langage symbolique poétique. Le sphinx d'Égypte. C'est le grand exemple que prend Heidegger. Le sphinx d'Égypte. Le sphinx d'Égypte avait une signification pour tous ceux qui vivaient au milieu et autour. Le sphinx d'Égypte aujourd'hui pour nous, il faut l'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Parce qu'il n'y a plus le milieu ambiant. Et je comprends très bien ça, c'est très vrai, c'est comme ça. Prenez l'art chrétien transposé dans un musée. Ben, c'est vrai, il faut l'expliquer, on ne comprendra pas. Parce qu'il n'y aura pas tout le milieu dans lequel on comprendra quelque chose, mais il y a besoin d'une herméneutique. Il faut des casas pour expliquer la roman, n'est-ce pas? Il faut des gens qui pendant les vacances sont là pour faire entrer des gens qui n'ont rien du tout de religieux sur pouvoir comprendre ce que c'est, ce que ça représente. Alors l'herméneutique, elle est vraie pour l'art, est-elle vraie pour la parole de Dieu? On ne s'est jamais posé de problème. C'est triste, on l'a appliqué tout de suite. Est-ce qu'elle est vraie pour la parole de Dieu? Est-ce que le croyant a besoin d'une herméneutique? Ou est-ce que le croyant, dans la mesure où il est croyant, est immédiatement adapté à la parole de Dieu? C'est là la grosse question. Et c'est une question très importante. Je crois que le propre de la tradition, c'est de nous permettre d'être immédiatement adapté à la parole de Dieu. C'est le jour où on supprime la tradition que l'herméneutique devient nécessaire. Et ça, c'est très très net. Hein. C'est le jour où la tradition est supprimée. L'herméneutique est née dans un climat protestant. Alors, dans un climat protestant, je comprends très bien, je vous donne l'application des herméneutiques. C'est l'heure où on a encore 3 minutes. Je ne sais pas, c'est à quelle heure pour arrêter? Ah non, parce qu'il y a l'office. Ah bon, 6h30. Alors encore 3 minutes, pas plus, parce qu'il faut les cours de 45-50 minutes. Hein. Bon, alors, l'application de l'herméneutique, elle est très significative. Hein. C'est par exemple, on se demande comment l'évangile de Saint Jean a été écrit. C'est vrai, il est écrit très longtemps après Jésus. Alors, historiquement, si je me place d'un point de vue purement historique, vous comprenez quelle est la valeur d'un écrit qui est écrit 50 ans après sa source. Et parmi vous, si dans 50 ans, vous relatez le cours d'aujourd'hui, hein, vous voyez la belle herméneutique qu'il faudra. Dans 50 ans, relater le cours comme ça. Non, vous en feriez la rédaction demain, bon, ça irait encore plus loin, et si chacun en faisait la rédaction, on aurait 50 rédactions différentes, n'est-ce pas? Et alors on pourrait dire, très bien, parce que chacun reçoit de sa manière. Alors vous voyez, Saint Jean écrit son évangile 50 ans après, au moins 50 ans après. Donc on doit se poser la question, mais la relativisation de ce que Saint Jean dit par rapport à sa source. La source, c'est le Christ. Bon, on se pose le problème pour les écrits humains, mais on oublie qu'il y a la révélation, qu'il y a la tradition. Et la tradition, c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint dans le cœur des saints qui garde la parole de Dieu. C'est la première infaillibilité, c'est le cœur, c'est la tradition, la première infaillibilité. Autrement, l'infaillibilité du pape, on ne sait pas comment ça pousse. Tandis que si vous l'enracinez dans la tradition, ah oui, c'est très vrai. Et il est celui qui, au nom de la tradition, va dire, voilà la vraie tradition. L'infaillibilité, elle est dans le cœur de Marie qui présente le premier moment de la tradition. Et la parole de Jésus a été gardée dans le cœur de Marie, gardée dans le cœur des apôtres, et elle aurait peut-être transmise. Mais c'est qu'un courant souterrain, si vous voulez, prenez l'image d'un courant souterrain, puis tout d'un coup ça apparaît. On dit une source, mais oui, il y a un courant souterrain, il y a une continuité. La tradition fait la continuité, la durée, vous voyez, la continuité. La parole de Dieu est gardée. Et c'est pour ça que l'herméneutique, pour un catholique, mais non, on a beaucoup mieux. On a une tradition. Et c'est la tradition qui explique. Mais ça, évidemment, la tradition, ça ne peut pas s'expliquer scientifiquement. Puisque ça ne s'explique pas scientifiquement, ça n'existe pas. Ce que mon filet prend, je l'appelle poisson. Mais tout ce que mon filet ne prend pas, il n'est pas poisson. C'est évident. Et alors, c'est ça comment l'herméneutique apparaît. L'herméneutique est une méthode scientifique qui essaie d'expliquer un texte en fonction du milieu. et qui explique comment, de fait, il est relativisé par les différents milieux. Alors, on essaie de comprendre les différents moments dans lesquels le texte peut s'expliquer. C'est pour ça qu'on aboutit quelquefois à dire « Aucune parole de l'évangile de Saint Jean est vraiment une parole de Jésus. » Scientifiquement parlant, c'est très vrai. Je suis tout à fait d'accord, scientifiquement parlant. Mais si je reçois l'évangile non pas du tout comme un écrit historique, mais comme un témoignage de quelqu'un qui a porté la parole de Dieu et qui nous la transmet, ah, c'est tout à fait différent. Le problème est tout autre. On a oublié la tradition. On a oublié le Saint-Esprit. Bon. Alors, la fois prochaine, nous commencerons, si vous voulez. C'était nécessaire de dire ça pour situer ce que nous allons faire. Voyez, c'est pour ça que ce n'est pas théologie biblique. Faisons attention, c'est pas théologie biblique, parce que ça, c'est après trop équivoque. C'est la théologie, si vous voulez, du développement de la parole de Dieu. Comment la parole de Dieu s'est développée progressivement. Alors, c'est tout le devenir. Le devenir dans l'intelligibilité de la parole de Dieu.